pays disparu. Les États que l'histoire a rayés de la carte. Tiré du livre de Björn Berge, Atlas des pays qui n'existent plus, aux éditions Autrement. Obock, 1862-1894. Population 2000 habitants. Superficie 7500 km². Trafic d'armes et bouillon de chèvre. Lorsque Obock est acheté par la France en 1862, son territoire n'est pas plus grand qu'un village de pêcheurs perdu au milieu d'une étendue aride et olivâtre, aux grains de sable plus gros que ceux que l'on trouve habituellement dans le désert. Dans l'ambiance dissolue qui règne en ce temps-là à Obock, un fonctionnaire fraîchement débarqué se laisse aller à la débauche générale. Alors qu'une fête de bienvenue bat son plein, il s'aventure sur les rochers accidentés qui bordent les quartiers bien ordonnés de l'administration coloniale, avec ses bâtiments de plain-pied blanchis à la chaux. Les autochtones, eux, se contentent de huttes faites de branchages, de paille et d'argile. Dans la nuit noire, au ciel constellé d'étoiles, on n'aperçoit ici et là que le vacillement d'une lampe à huile. Il trébuche, la bouteille d'eau de vie de réglisse se brise, sa bouche se remplit de sable. Un chien aboie, quelqu'un le prend dans ses bras. Il se réveille au petit matin, allongé contre un ballot de fourrure. Du sang lui coule de la tête. Au-dessus de lui, le toit de chaume ajouré laisse passer les rayons du soleil. Une femme lui apporte un bouillon de chèvre et du pain, mais il n'a pas la force de porter les aliments à sa bouche. Il se sent misérable. Mais au milieu du tumulte, il pense à sa famille restée en France et un soulagement immense l'envahit. Obock est la première colonie française en mer Rouge. Les sultanats locaux de Tadjoura, Gobaad et de Réhéto cèdent ce territoire sans restriction à la suite de l'assassinat quelques années plus tôt d'un agent consulaire français à Aden, en voyage dans la région. L'achat est conclu pour la maigre somme de 10 000 Maria Theresa Thaler, une monnaie qui tient son nom d'une archiduchesse autrichienne depuis longtemps morte et enterrée, mais qui a toujours cours dans la région. La construction du canal de Suez a commencé depuis déjà quelques années et l'Italie et l'Angleterre sont établies dans la région. La France souhaite elle aussi y avoir sa propre base pour s'assurer un approvisionnement au charbon destiné à sa flotte moderne et pour y faire transiter ses navires commerciaux chargés de denrées en provenance des colonies d'Asie du Sud-Est. Mais Obock s'avère bientôt être un mauvais choix, car bien qu'entouré de récifs coralliens, le port est exposé à la houle puissante de la baie d'Aden, générée par les tempêtes qui sévissent tous les ans dans l'océan Indien. Il faut pourtant attendre 1894 pour que la colonie soit déplacée dans le golfe de Tadjoura, garantissant un bien meilleur accès au port de Djibouti. À l'apogée de sa gloire, entre 1884 et 1885, Obock compte 2000 habitants. Outre l'administration coloniale et quelques mercenaires semi-officiels, la plupart d'entre eux sont des aventuriers, des petites canailles attirées par la vantardise du roi Ménélique qui prétend posséder des quantités astronomiques d'ivoire et de joyaux. L'un de ces aventuriers n'est autre que le poète Arthur Rimbaud. En France, il s'est taillé une réputation pour sa soif de liberté sans bornes, ses excès de boissons et ses débordements sexuels. Mais à 21 ans, il se sent blasé et repu. Après avoir parcouru l'Europe par monts et par veaux et s'être volatilisé dans la jungle à Java, le voilà qui réapparaît à Obock. Désillusionné, contrit, usé et sans le sou, après plusieurs années d'errance, il se décide à remettre un peu d'ordre dans sa vie, mais avant tout, à trouver un moyen de subsistance. Il n'a plus la force de vivre d'amour et d'eau fraîche. Il se tourne naturellement vers le trafic d'armes. Il loue une maison de briques un peu à l'ouest du golfe de Tadjoura pour échapper au regard des autres colons. C'est un petit village d'Anakil avec quelques mosquées et quelques palmiers. Il y a un fort construit jadis par des Égyptiens et où dorment à présent 6 soldats français sous les ordres d'un sergent commandant le poste, décrit Arthur Rimbaud. Il considère le petit univers d'Obock avec un mépris non dissimulé. la petite administration française n'a d'autre mission que celle de remplir des formulaires et d'aller boire l'argent public, sans fournir le moindre effort pour gagner un centime dans cette terrible colonie seulement habitée par une douzaine de parasites. Rimbaud se croit tiré d'affaire. Il prend un malin plaisir à amasser d'importants bénéfices en fournissant au roi Ménélique quantité de fusils à silex à 40 francs pièce. Les affaires vont bon train, au-delà de ce qu'il avait imaginé. Ayant trouvé terrain propice à sa mégalomanie, il entame une correspondance pressante avec le ministre des Affaires étrangères afin d'obtenir des fonds pour créer une industrie de l'armement sur le territoire d'Obock. Mais il essuie un refus catégorique. Sans surprise, il se fourre dans une histoire d'amour complexe, probablement avec une Française. L'idylle tourne au vinaigre. On l'imagine aisément, homme d'un âge incertain, hirsute, voûté, rongé par des idées noires, déambulant sur la plage déserte. Il demeure insensible aux impressions extérieures, tant à l'odeur aigre d'un banc de sardines échouées qu'aux reflets dorés du soleil sur l'eau cristalline. J'en ai assez vu de cette mascarade. Autant passer les jours qu'il me reste à errer, dans l'épuisement et l'adversité, sans avoir rien d'autre à espérer que la mort et la souffrance. Il parvient pourtant à se ressaisir et s'enfuit à Aden, colonie anglaise de l'autre côté de l'embouchure de la mer Rouge. Après quelques temps, il tombe gravement malade et doit être rapatrié en toute hâte à bord du paquebot l'Amazon. Débarqué à Marseille, il y meurt au bout de quelques semaines. C'est le roi Ménélique II qui aura le mieux tiré son épingle du jeu. Il accède au trône impérial d'Éthiopie et aura l'honneur de compter le souverain légendaire Haïlé Sélassié parmi sa descendance. La France maintient sa position autour du golfe de Tadjoura, d'abord rebaptisée Côte française des Somalis, puis territoire français des Afars et des Issas, d'après le nom des deux tribus locales majoritaires. Ce n'est qu'à la suite d'un référendum et de pressions considérables des pays voisins que la République de Djibouti acquiert son indépendance en 1977. Aujourd'hui, il s'agit du plus petit pays de la Corne de l'Afrique, pourtant marqué par de graves querelles intestines ayant maintes fois évolué en affrontements sanglants. La ville d'Obock, située sur les terres traditionnellement occupées par le peuple Afar, a jusqu'ici été épargnée.
إلينا هذا نوحاسا وهوي نو دهي نوهشين لمحين كله لي تانو تشير بؤي وچعي الكاي الله جنوي هو ذا في الصدو
Thank you.
C'était Pays disparu, extrait du livre de Björn Berge, Atlas des pays qui n'existent plus, aux éditions Autrement.